Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, avec aujourd'hui Rémi Barré, avec Thierry Moreau, Perico Légas et Pierre Rondeau. On est avec vous également au 32-16 pour réagir à ce chiffre. 50% des Français qui cherchent un véhicule d'occasion recherchent désormais des voitures de plus de 100 000 km. La voiture est-elle devenue un luxe? On attend vos réactions, vos commentaires. À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. À 14h, 85% de hausse des décharges à ciel ouvert en France. En 4 ans, sommes-nous de plus en plus sales? Il y aura RMC Conso avec Charlotte Méritant. On vous donnera des astuces pour réparer votre voiture à petit prix. On parle beaucoup de voitures aujourd'hui dans cette émission. Et puis on vous offre des places pour les JO, Rémi.
Oui, après-demain, nous serons à J-100 des JO de Paris. Et nous vous offrons pour l'occasion 100 places sur RMC. Dans chaque émission d'RMC, vous allez pouvoir remporter vos 2 places pour assister aux épreuves des JO. Ça peut être du tennis de table, du judo, la finale du 100 mètres ou encore la cérémonie d'ouverture. Pour tenter votre chance, vous envoyez Paris 2024 par SMS au 732-16. Paris 2024 par SMS au 732-16.
RMC Estelle Midi.
13h03 sur RMC, on s'intéresse tout de suite au sondage du jour. Selon le baromètre de l'occasion du site Autoscout, un Français sur deux recherchant un véhicule d'occasion se tourne désormais vers des voitures de plus de 100 000 km. Rémi, comment est-ce qu'on peut expliquer cet attrait pour des véhicules autrefois méprisés?
Pour une raison financière, tout simplement. D'abord parce qu'acheter une voiture neuve coûte cher et même de plus en plus cher. Oui. Selon une récente étude de AAA Data, spécialiste de la donnée automobile, le prix moyen d'une voiture neuve atteignait l'an passé 35 474 euros.
Mais c'est énorme.
C'est quasiment 2000 euros de plus qu'en 2022. Et surtout, c'est 10 000 euros de plus qu'il y a 5 ans. Inabordable ce prix pour un bon nombre de Français. Conséquence, malgré les restrictions de vignettes, critères et ZFE, le parc automobile ne cesse de vieillir. D'après le dernier bilan de l'organisme technique central, c'est un organisme public qui rassemble l'ensemble des données du parc automobile français, eh bien l'an passé, l'âge moyen des voitures particulières en circulation en France était de 12 ans et 5 mois. C'est 1 an et 3 mois de plus par rapport à 2014. Aujourd'hui, 75% des véhicules qui circulent en France ont plus de 7 ans et près de 59% ont même plus de 10 ans.
Ah oui.
Malgré la volonté du gouvernement de faire passer les Français à l'électrique ou à l'hybride, près de 97% des véhicules en circulation en France ont un moteur thermique aujourd'hui. Le diesel représentant toujours plus de 53% des immatriculations.
Ah oui.
Mais quand tu dis 97% ont un moteur thermique, donc les hybrides vont là-dedans?
Non, uniquement thermique.
Ah, uniquement
diesel,
thermique, d'accord.
Essence, vroom. Uniquement thermique, c'est 97% aujourd'hui du parc automobile roulant.
Ah oui, donc c'est évidemment énorme. La voiture est-elle devenue un luxe en France? C'est la question que nous vous posons et que je vous pose, Perico Légas.
Alors, je roule avec ma vieille Velsatis de 2009, une Ferrière 157 216 km.
Ouais.
J'en suis ravi. Je tremble le jour où elle va me lâcher. Alors, elle a un moteur Nissan, c'est peut-être pour ça qu'elle est un peu plus costaude, et je la garde précieusement, et j'ai toujours eu des voitures que je mène jusqu'au bout. Je ne comprends pas ce besoin de renouveler.
Vous payez beaucoup plus cher en réparation.
Mais alors, c'est comme Brandt, vous savez, la machine à laver. Je suis jamais à l'échelle de garagiste avec elle.
Avec une voiture à 150 000 km?
Jamais. Les révisions. Ah, pas pourquoi? Parce que j'ai fait mes révisions.
L'entretien.
Parce que je roule, elle est formidable, je vais encore partir en vacances avec, et je n'ai jamais compris les gens qui avaient besoin de renouveler un parc automobile. Mmh. Voilà. Il m'est arrivé d'avoir des voitures de fonction neuves dans mes fonctions de journaliste, mais ma voiture personnelle à moi, celle dans laquelle je roule à titre privé, c'est toujours une vieille voiture. Et effectivement, aujourd'hui, je suis allé voir, parce que je pense que Joël va me lâcher, je suis allé voir chez les garagistes, les concessionnaires que je connais, les prix sont terrifiants, donc je vais de toutes les manières, je veux dire, c'est comme...
Oui, mais tu vas pas acheter,
quand
ta Velsatis va te lâcher, tu ne vas pas acheter une voiture à 100 000 km, tu vas acheter une voiture neuve.
Alors, si j'ai un... Alors, attendez, on va rentrer dans le cœur du débat. Si j'ai un revendeur de voiture qui me garantit qu'à 100 000 km, la voiture est en bon état, je n'hésiterai pas parce qu'elle sera forcément pas chère. Là, les voitures d'occasion, j'en ai vu quelques-unes, elles sont à 28, 29, 30 000 d'occasion. Et alors, au-dessus de 100 000, c'est un seuil où tout s'effondre. Et là, on tombe à 7, 8, 9 000. Allez, Pour 15 000 euros.
T'as plus de décote, en fait. Voilà, le prix,
15 000 euros,
pour
100
000 ou 120 000, c'est une
belle voiture.
Et encore,
non, assez récente. Une Mercedes.
Pas de récent.
Une Mercedes à 100 000, ouais. à 100 000 km, elle est ouais. à 15, 17
000. Ah oui, mais une Clio à plus de 100 000 km, tu peux en avoir une à 2 500, 3 000 euros.
Mais c'est pour ça. Et je crois que c'est l'avenir de alors c'est mauvais pour l'industrie automobile.
Bah, c'est ça. On nous dit l'inverse. Excuse-moi, mais ça fait 2 ans qu'on nous dit l'inverse. Sinon, passer à l'électrique. Et même, vous nous dites, faut être au diesel de plus de 100 000.
Bon, bah. Sinon, Estelle, ça va être du chinois. Ils vont nous. D'ailleurs, le PDG de Stellantis a dit, si l'Union européenne ne crée pas des protections contre le marché de l'automobile chinois, ça se réglera dans les urnes. Il n'a pas dit sur le marché, ça se réglera dans les urnes. Autrement dit, les gens, ça détruira des emplois. Et voilà, donc faut prévoir ça à l'avance, hein, Thierry.
Alors, Pierre Rondeau, on comprend bien sûr que pour le porte-monnaie des Français, c'est une obligation aujourd'hui de ces voitures à 100 000 km. Parce que pour le coup, la voiture est trop chère. Rémi l'a dit, un prix moyen à 35 000 euros, c'est absolument énorme.
Ça, on est entièrement d'accord.
En même temps, on peut se dire aussi que c'est une mauvaise nouvelle pour l'écologie, quoi.
Aussi, bien sûr, c'est à la fois pour le pouvoir d'achat, des Français, pour leur portefeuille et pour l'environnement, pour l'écologie.
Contrairement à ce qu'on croit, si c'est, on parle d'une voiture bien entretenue, on parle pas d'un gros diesel qui envoie de la fumée noire.
Ah non.
Si la voiture est bien entretenue, l'impact écologique de la voiture, plus tu la fais durer, moins elle a un impact écologique au niveau de la construction, elle est déjà.
D'accord, mais si c'est un diesel de 20 ans, même s'il est bien entretenu, il pollue plus qu'une voiture électrique aujourd'hui.
Il polluera, mais à la construction.
D'accord, mais Rémi, si je vois le verre à moitié plein, c'est aussi quand tu as les chiffres que je trouve d'ailleurs aberrants, quand on sait qu'en 2035 on nous impose le tout électrique, 97% des voitures sont aujourd'hui thermiques. Quand tu dis oui, c'est vrai que si on les utilise jusqu'au bout du bout, on peut rentabiliser le coût environnemental de la construction, c'est vrai. Mais à comparaison entre une voiture thermique ou électrique, l'électrique polluera toujours moins. Donc c'est pareil, comme on regarde, si on est à 97% de voitures thermiques ou tout l'inverse, tout électrique, on polluera moins de fait. Donc premier élément sur les questions environnementales. Si c'est rentabilisé, si tu fais 20 000, 30 000, 40 000 km sur une électrique, forcément ça polluera moins qu'une thermique, de fait. Quand bien même la thermique sur 100 000 km, tu peux rentabiliser, c'est vrai. Donc, coût environnemental, et au-delà, sur la question très précise, bien de luxe, malheureusement, non. Et ce que je veux dire, c'est que malheureusement, non, parce que malheureusement ou pas, les Français sont dépendants de la voiture. Moi, je suis parisien, donc je vais encore dire, le parisien qui n'a pas le permis de conduire, qui peut librement prendre le métro, prendre le vélo et peut circuler. Moi, je peux dire que ce week-end, j'étais en Bretagne. J'ai voulu aller voir quelqu'un dans un village lointain breton d'Ille-et-Vilaine.
Ça coûtait 100 euros en taxi.
Non, mais... Alors, je suis allé voir les bus, il y en a 4 par jour, et pas le week-end. Donc, déjà, le week-end, c'est mort. Ou alors, c'est le taxi, c'est 80 euros l'aller, 80 euros le retour.
C'est ce que je viens de te dire.
Voilà, donc, c'est vraiment, hormis Paris et très certainement Lyon, Lille, Rennes et les grandes villes de France, une voiture, c'est pas un bien de luxe, c'est un bien normal, c'est un bien indispensable. Oui. On a besoin de la voiture. Donc, de fait, parce qu'il y a une problématique de pouvoir d'achat, problématique d'inflation, problématique de niveau de vie, les gens viennent à prendre des voitures à plus de 100 000 km, mais ils ont besoin de la voiture. C'est pas un bien de luxe, c'est un bien indispensable.
Mais c'est devenu un bien de luxe.
C'est un bien de luxe au moment où tu dois le renouveler.
Ouais. C'est ça.
J'ai un vieux diesel de 250 000 km, une petite Mercedes qui roule très bien. Je l'entretiens effectivement comme un bijou parce que le jour où elle va lâcher, l'autre jour j'étais pour une révision dans un garage. Que ce soit les véhicules neufs ou les véhicules d'occasion à faible kilométrage, mais c'est des prix stratosphériques. Ça n'est pas un luxe, effectivement, dans l'usage, parce que tous les gens qui habitent à la campagne, tous les gens qui n'ont pas une infrastructure de transport en commun très maillée, ont besoin de la voiture. Quand tu es deux à travailler dans un foyer, tu as besoin de deux voitures. Oui. C'est la réalité. Ça, c'est pas un luxe. Et le luxe, il est dans le renouvellement. Et donc, on a un vieillissement du parc automobile. Alors, avec la pollution qui va avec tout ce qu'on veut, il faut essayer de bien les entretenir. Mais évidemment que c'est un luxe. C'est très, très cher.
Mais c'est aussi une catastrophe pour les constructeurs. Après, c'est aussi de leur faute. Hein. C'est-à-dire que...
Exactement.
Non, mais voilà, quand aujourd'hui, Rémi l'a dit, mais il n'y a plus aucune voiture en fait neuve en France à moins de 10 000 euros. Ça n'existe plus. Même la Dacia est à plus de 10 000 euros. Voilà. Donc à un moment.
En présence, ce que c'est que 10 000 euros quand même.
C'est énorme, mais c'est pour ça, c'est énorme. Mais c'est aussi de la faute des constructeurs parce qu'à un moment, quand ils vont voir que tout le monde se tourne vers le marché d'occasion et que plus personne n'achète leur voiture, il va falloir qu'ils fassent un effort. Et puis le problème, c'est que t'as trop d'électronique. Qui connaît.
Ça, voilà, en termes de sécurité.
Moi, je sais pas, j'ai un nombre d'options sur ma voiture, mais je sais même pas ce que j'ai. Il y a plein de boutons. Déjà, je sais pas quoi ils servent. Deux, je m'en sers pas. C'est genre le. Je ne sais même pas ce que c'est.
Il y a des modèles qui sont très
économes. J'imagine que je les paye, ces boutons. Tu vois ce que je veux dire? Et de toute façon, ils sont dans la voiture.
Habits,
oui, donc je ne pouvais pas dire, alors ce bouton-là, je m'en fous.
Mais par définition, c'est
le truc automatique, je m'en fous. Voilà, tu ne peux pas choisir tes boutons. Donc encore une fois, ils sont déjà là. Aujourd'hui, toutes les voitures, elles sont toujours toutes options, etc. Et donc, tu ne peux plus choisir. Déjà, la voiture à manivelle, c'est fini. C'est bien dommage parce que ça nous coûtait quand même moins cher. Et ça, c'est aussi un problème.
exemple où il y a très très peu d'options.
Mais, mais c'est plus de 10 000.
Mais on reste toujours à 10 000 euros, on est d'accord.
Alors, on est avec Johan qui nous appelle de Golbey dans les Vosges. Johan qui est comptable. Bonjour Johan.
Bonjour à tous.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Johan, vous roulez dans quelle voiture, Johan?
Moi j'ai une voiture électrique, une 208.
D'accord, donc plutôt neuve alors.
Plutôt neuve, elle a 4 ans.
Elle a 4 ans. Vous n'avez jamais été séduit par ces modèles d'occasion de plus de 100 000 km?
Ben, ça aurait pu être une option. Après, moi, je vais rejoindre Perico. La voiture la moins chère, c'est celle qu'on garde longtemps, qu'on achète
bien sûr,
déjà,
forcément.
Et qu'on mène jusqu'au bout. Parce que aujourd'hui, les gens, ils font tout le contraire, en fait. Ils veulent changer de voiture tous les 2-3 ans.
C'est hallucinant.
Ils prennent des véhicules en leasing. Et ils prennent des gros véhicules. C'est ça votre prix moyen qui augmente, c'est les gros véhicules à chaque fois, alors qu'ils n'en ont pas besoin. Moi, j'ai pas vécu mon enfance. On était deux enfants. J'ai pas vécu mon enfance dans une grosse voiture. J'en suis pas mort. Hein. Donc, je pense qu'on pouvait faire sans à l'époque. Donc, je pense qu'on peut encore faire sans aujourd'hui.
Ouais, mais il y a plus, Johan. Le problème, c'est qu'en fait, on n'a plus le choix, puisqu'il y a plus de voitures à moins de 10 000 euros. Comment on fait?
Oui, mais enfin, il y a plus de voitures à moins de 10 000 euros, mais on peut trouver quand même un juste milieu entre les voiture confortable et assez petite à 20 000 euros et celle à 35 000, 40 000, 45 000.
Mais 20 000 euros, ça reste énorme. Hein.
Oui, je suis d'accord. Après, on peut trouver des solutions. On peut prendre en emprunt. On peut prendre des voitures d'occasion aussi. Hein, il n'y a pas de souci. Mais à un moment, les gens, ils font tout le contraire de ce qu'il faut. Les SUV aujourd'hui, ça inonde le marché. Il n'y a que des pubs là-dessus. Il y a
une voiture d'achat
est énorme.
En une voiture d'achat est énorme.
En assurance, c'est énorme. En consommation, c'est énorme. En pneus, c'est énorme. Enfin, les gens, ils font tout le contraire de ce qu'il faut. Il faut déjà se concentrer sur les moyens. Les gens, ils vivent au-dessus de leurs moyens. En fait, ils veulent toujours plus gros que ce qu'ils ne peuvent acheter. Donc, ils se concentreraient déjà sur leurs problématiques et sur leurs vrais besoins. Je pense qu'on aurait déjà des achats plus raisonnés. Et effectivement, il y a de très bons véhicules au-dessus de 100 000 km qui sont à peine rodés. Enfin, je cite un exemple, c'est la Yaris. La Yaris, elle va très, très loin. Elle convient à beaucoup d'usages. Alors, ok, c'est une petite voiture, mais je pense que deux enfants, qui est la norme, en tout cas la moyenne des couples avec enfants, je pense que ça passe très bien, il n'y a pas de problème.
Non, mais la Yaris, elle était, il y a 10 ans, elle n'était pas chère du tout, quoi. Il y a ça aussi, et aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent de ce prix-là, quoi. C'est ça, en fait, le problème, il est là. 000, hein. Même une Clio, je ne sais pas combien ça coûte, mais enfin, c'est déjà plus de 10 000 euros. Hein. Et on parle d'une Clio, on n'est pas non plus...
La Yaris à moins de 10 000, vous l'avez sans problème. La hybride Yaris à moins de 10 000, elle va très très loin.
Oui, mais vous l'avez d'occasion. Ouais. Neuve, elle vaut pas ce prix-là. Et c'est bien le problème, c'est que les constructeurs aussi ont fait flamber leur prix. Mais pourquoi? Parce que quand l'État nous dit qu'il faut absolument acheter de l'électrique, de l'hybride, qu'il faut changer le parc automobile, et ben les constructeurs, ils se disent, tiens, tout le monde va venir comme des gogos dans la concession nous acheter des voitures. Il n'y a pas de raison de mettre une voiture à 8 000 alors que ça se trouve, on va la vendre à 12.
D'autant plus qu'en 2035, c'est pas
l'État a favorisé ça aussi.
L'interdiction des thermiques, c'est l'arrêt de la construction.
Voiture neuve,
voilà, c'est ça. Donc on pourra encore avoir pendant 10 ans, 20 ans, des voitures à plus de 100 000 km.
Et crois-moi, en 2034, tu vas avoir un nombre de ventes de diesel. Je veux dire, ça va être. Tout le monde va vouloir son diesel pour le garder pendant 15 ans et aller au bout du bout. Merci beaucoup, Johan, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et ça réagit aussi très fort sur l'appli RMC, Rémi.
De très nombreux témoignages, comme celui de Eterne, qui nous écrit: ma voiture principale a bientôt 30 ans, 290 000 km. Ouais, ma voiture de sport a 20 ans, 115 000 km. Entretien irréprochable. Pourquoi irais-je acheter une voiture neuve alors que les miennes sont encore en parfait état de marche? Si ma voiture principale lâche, je rachèterais le même genre en occasion, une vieille voiture, beaucoup de kilométrage, mais bien entretenue. Voilà, moi, mes besoins, ils sont là.
Après, le problème, c'est les vignettes critères et les ZFE. Alors même s'il y a beaucoup de villes qui reculent, si tu te retrouves à côté d'une grande ville et que tu peux pas rentrer dedans, c'est un peu embêtant.
Comment elles étaient entretenues, les véhicules d'occasion aussi? C'est aussi exactement. Problème,
après, c'est l'année et
il y a pas mal de concessions qui font des garanties comme.
Oui.
Notre invité sur ce débat, c'est Flavien Neuvy. Il est économiste et directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Bonjour Flavien.
Bonjour.
Et
bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous pour répondre à cette question. Est-ce que la voiture est devenue un luxe aujourd'hui en France?
La réponse est oui. En tout cas sur les voitures neuves, quand on regarde l'évolution des prix de vente des véhicules neufs sur ces 20 dernières années, les prix ont augmenté deux fois plus vite que l'inflation. Et même un peu plus en réalité. Donc c'est vrai que quand on regarde le prix de vente moyen d'un véhicule neuf, aujourd'hui il est autour de 36 000 euros. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont absolument pas les moyens d'acheter un véhicule neuf. Et ceux qui ont les moyens n'ont pas forcément envie de mettre autant d'argent pour une voiture. Donc quand on regarde la conséquence, c'est que sur ces 30 dernières années, on a assisté à un effondrement des ventes de véhicules neufs aux ménages. Hein. Au milieu des années 90, c'était à peu près 7 à 8% des ménages qui chaque année achetaient une voiture neuve.
Ah oui ?
Maintenant, on est à 2%. Aujourd'hui, les gens achètent des véhicules d'occasion parce qu'ils ne veulent pas mettre autant d'argent sur une voiture neuve.
Mais à qui la faute, en fait, uniquement aux constructeurs ?
Je crois que les torts sont un peu partagés, si je puis dire. Alors d'un côté, il y a des constructeurs effectivement qui eux cherchent une rentabilité la plus forte possible. Ces dernières années, on a eu des pénuries de semi-conducteurs, de composants électroniques, et donc il y avait une pénurie de voitures. Pour avoir une voiture, ça prenait beaucoup de temps, et donc ils n'ont pas du tout eu besoin finalement de faire des promotions, de baisser les prix. Et donc ça a plutôt tiré les prix vers le haut. Et puis il y a aussi la réglementation. Il faut le dire, là, les constructeurs n'y sont pour rien. C'est que on leur demande de dépolluer les voitures de plus en plus, ce qui est logique pour la qualité de l'air, mais ça coûte très cher. Tous les équipements qui sont mis à bord des voitures, ça coûte très cher et on le retrouve sur le prix de vente à la fin.
Mais Flavien nous dit que ce serait impossible aujourd'hui d'avoir des voitures de moins de 10 000 euros avec peut-être moins d'options, quoi.
Oui, alors ça, ce serait possible. 10 000 euros, c'est un peu juste peut-être. En tout cas, la solution, ce serait certainement de faire des voitures plus petites, moins lourdes.
Des Trabants.
Qui ont moins besoin d'acier, d'électronique à l'intérieur. On voit d'ailleurs des mini-voitures qui commencent à sortir, qui rencontrent un certain succès.
Oui, Citadine.
Citroën, oui, ouais, absolument. Mais en ville, ça répond à un certain besoin. Alors évidemment, c'est pas pour les familles. Hein, les familles, elles ont besoin d'une voiture plus grosse. Mais oui, peut-être qu'à l'avenir, on aura effectivement des voitures qui seront un peu moins grosses et donc un petit peu moins chères. De toute façon, les gens n'auront pas les moyens de mettre 35 000 euros dans une voiture.
Ah non, ça c'est sûr que c'est... voilà. Et puis comme ça ne va pas en s'arrangeant, c'est-à-dire que dans 2 ans, ce sera à 40 000. Et manifestement, oui, on ne va pas vers une déflation des prix. Ça c'est sûr. Reste avec nous, Flavien, parce qu'on a plein d'auditeurs qui veulent réagir sur ce sujet, et notamment Johan qui nous appelle de Laine-aux-Bois dans l'Aube et qui est consultant en informatique. Bonjour, Johan.
Bonjour à tous.
Bonjour. Vous roulez dans quel type de voiture, Johan ?
Alors moi, je suis en voiture électrique.
D'accord.
Et je fais plus de 25 000 km par an.
Et elle a quel âge, votre voiture ?
Elle a 4 ans.
Donc vous êtes à 100 000 km.
Voilà, c'est ça.
Et Johan, est-ce que vous seriez tenté par l'achat, justement, quand vous allez revendre votre voiture, par exemple, là, elle a 100 000 km, mettons, vous allez jusqu'à 150 000. Est-ce que derrière, vous allez vouloir un véhicule neuf ou est-ce que vous allez être tenté plutôt par un véhicule d'occasion de 100 000 km, justement ?
Alors, moi, en fait, ce que j'ai fait comme choix et ce que je pense que je vais prolonger, c'est que finalement, je ne vais pas forcément l'acheter. Moi, je m'explique, mais aujourd'hui, ce qui a changé, et je pense que certains de vos invités le disaient, mais les voitures neuves ont toujours été chères quelque part. Par contre, ce qui a changé, c'est que l'occasion est devenue très très chère. Donc ça, c'est un problème, d'où les 100 000 km. Et en fait, moi, le parti que j'ai pris, je sais qu'on n'a pas tout à fait la même expérience là-dessus, je pense, Estelle, mais que je trouve intéressant, c'est notamment la location. Parce qu'effectivement, si on considère que la voiture n'est plus un bien que j'ai en propriété, mais finalement un centre de coût tant que je travaille, ça peut être plus acceptable, entre guillemets, de payer pour ce service-là, si vous voulez.
Et mais donc, la location, vous voulez dire le leasing ?
Le leasing, ouais. Plutôt du leasing.
Donc, je suis d'accord avec vous, c'est ce que j'ai.
Alors, il me semblait que pourtant on a eu les mêmes à peu près les mêmes voitures, parce que je dis pas de bêtises, vous avez une Mini, je crois.
Ouais, en leasing.
Je crois que en termes de restitution des voitures, vous avez eu une mauvaise expérience que j'avais pas eue, mais sinon globalement, oui, je suis plutôt sur le leasing.
Mais Johan, donc vous continuez sur le leasing, mais effectivement le leasing, ouais. A priori vous avez une solution qui est d'acheter les véhicules neufs, en fait. On a rarement un leasing avec un véhicule de 100 000 euros, en fait.
Alors ça existe maintenant, si vous regardez bien, vous pouvez faire du leasing aussi sur des voitures d'occasion, alors pas forcément beaucoup de kilométrages. Oui, ça existe, alors c'est pas toutes les voitures, pas tous les constructeurs évidemment, mais ça peut se faire.
Non, mais en fait, évidemment.
Ouais. Ah ben je savais pas.
Ah, moi je savais pas, bien sûr.
Moi je pensais que c'était que sur les véhicules neufs, mais effectivement ça c'est une bonne solution pour
après,
payer
c'est
moins cher.
Récentes, hein, c'est voitures d'occasion récentes. Hein.
Ouais, mais enfin bon, tu payes quand même moins cher ton leasing, parce que en vrai, entre une voiture qui a 20 000 km et une voiture qu'on a zéro, il y a zéro différence à part le prix.
On est d'accord, parce que c'est pour ça que généralement c'est des voitures d'occasion récentes qui sont proposées en leasing, qui ont 10 000, 15 000, voire moins de kilomètres.
Au moment que tu mets ta clé de contact dans ta voiture neuve, tu perds 15% de la valeur, on le sait.
Exactement.
Elle sort du concessionnaire, ça y est, c'est mort, 15% moins.
Merci beaucoup, Johan, en tout cas, d'avoir été avec nous. On est également avec Eric, qui nous appelle de Tourne-Du, dans le Calvados. Bonjour Eric.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez une Dacia de 2009, hein, c'est ça ?
Alors, tout à fait. À l'époque, je crois que c'est 2009, oui. On appelait ça des baladurettes.
Ah bon. Ah mais oui, c'est vrai, mais oui.
Et bien on devait emmener une voiture d'occasion, mais alors qui tenait plus debout. Moi, j'ai emmené une vieille 106 XTD qui tenait plus debout. Et j'ai repris une Dacia neuve, 8 500 euros à l'époque. Alors c'est une voiture sans option, sans rien. Et t'es au GPL. Donc d'accord. J'ai eu la réduction sur la carte grise et sur l'assurance que j'ai toujours. Et je suis à 267 000 kilomètres.
Ouais, avec rentabilisé.
Ah oui, largement. Et là, je suis à la campagne et je tracte des remorques de gravats qui font plus de 500 kilos et ça tire encore avec le même embrayage. Pour le plein d'un GPL en ce moment, c'est bon, 25 euros. C'est 25 euros plus l'essence.
Et oui, c'est moins cher.
C'est moins cher. Alors, ça part vite, hein, parce que bon, il y a que 32 litres. Hein, j'ai d'accord. Pas trop de secours, déjà. Mais par contre, je peux aller partout. Même dans la rue, on me demande si elle est pas à vendre. Même à ce prix-là, on me donnerait presque 2000 euros. Voilà.
Mais quand même, Eric, 250 000 kilomètres, bon, il y a un moment, il va falloir la rendre.
C'est vrai que l'entretien, coûte pas cher.
C'est ce que j'allais vous demander, justement. Parce que 250 000, j'imagine que chaque fois que vous passez chez le garagiste, on vous enlève un bras, quoi.
Écoutez, là, je vais faire changer la courroie dans le moteur, là. Mmh. C'est 500 euros, par exemple.
Ah oui, quand même.
Des pneus, des kits de frein, c'est 70 euros les deux.
Bon. Oui.
Donc, au niveau prix,
sur la longueur, vous y gagnez, quoi, en fait.
Oui, parce qu'une courroie, a priori, t'en utilises une tous les 100 000 kilomètres, j'imagine. Ouais. Donc, bon.
Et c'est la même d'origine que j'ai un peu dépassé.
Ah oui. J'ai un tout petit peu dépassé, j'ai passé de 150 000, mais c'est rien.
Elle
queen pas, elle siffle pas au démarrage?
Si, ça commence. Ah
ouais. Ça c'est la courroie. Ouais.
Attention,
faut la changer vite, la courroie. Hein.
Parce que
si elle casse, le moteur est foutu, terminé.
Oui, et puis alors donc, je redoute quand je vais être obligé de la mettre à la casse, quoi.
Oui, parce que ça vous coûte rien en assurance non plus, j'imagine.
On voit l'assurance, ça me coûte, j'ai encore la réduction, ça me coûte quoi, une vingtaine d'euros par mois, par exemple.
Ouais.
Oui. Et donc, franchement, c'est beaucoup moqué de moi, à l'époque. Oh là là, un Sandero, bon, c'est une voiture un petit peu populaire, un petit peu la voiture des pauvres. Hein, et puis, en fin de compte, maintenant, je me rappelle, le jour des grèves, de carburant, je pouvais pas avoir accès. Moi, je voulais que du GPL. Mais tout le monde voulait de l'essence. Et moi, je voulais que du GPL.
Mais c'est vous le plus intelligent.
Mais c'est Eric,
Vu le prix des voitures aujourd'hui et le prix aussi dans les garages pour les voitures, je parle des voitures modernes, parce que dès qu'il y a de l'électronique, ça flambe, c'est à se poser la question. Aujourd'hui, avant, c'était vraiment, tu étais content d'avoir une grosse voiture, une belle voiture,
de changer tous les 4-5 ans. Rien ne s'allume parce qu'il n'y a pas de voyant, en fait.
Tous les 4-5 ans, tu voulais changer pour une nouvelle voiture et tout, mais maintenant, est-ce que c'est vraiment intelligent de faire ça?
Moi, j'ai acheté les phares aux Xénon, je ne sais toujours pas à quoi ça sert, mais j'imagine que j'ai payé.
Ça éclaire mieux. Mais Rémi, tu rappelais qu'un véhicule neuf sur deux est un SUV.
Oui, aujourd'hui. Oui.
Malgré tout, c'est vrai que c'est intelligent de prendre une voiture plus sobre, plus petite, plus légère, mais malgré tout, les voitures neuves sont
mais il n'y a plus de voitures sobres. Donc, le problème, il est là. Si on nous proposait des voitures sobres, mais on ne nous en propose plus. En tout cas, bravo, Eric. Eric, qui a une voiture de plus de 250 000 km et qui marche très bien. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous. Flavien Novi, notre invité, donc toujours économiste et directeur de l'Observatoire. Je mets mes lunettes tout de suite. C'est LM de l'automobile. Flavien, on a bien entendu avec le témoignage d'Eric, finalement, avoir une voiture de 100 000 km, on pourrait se dire que ça coûte beaucoup plus cher en entretien, en réparation, mais paradoxalement, c'est encore moins cher qu'une voiture qui aurait peu de kilomètres. Et on se dit que c'est assez dingue et qu'effectivement, on comprend même plus que les Français se tournent finalement vers des voitures neuves.
Oui, alors il faut effectivement rappeler que, en fait, on roule de moins en moins. C'est-à-dire que tendanciellement, on fait moins de kilomètres chaque année. Alors, environ 12 000 kilomètres en moyenne, hein, on perd une centaine de kilomètres par an. Donc, des voitures qui roulent moins, c'est des voitures qu'on peut garder plus longtemps. C'est vrai que les voitures, globalement, alors il y a toujours des problèmes, mais globalement, elles sont quand même relativement fiables. Donc, garder une voiture qui a 100, 150, 200 000, voire un peu plus, ça pose pas réellement de problème et ça explique aussi pourquoi finalement on a un parc qui n'arrête pas de vieillir. Il y a 39 millions de voitures qui roulent sur nos routes. En moyenne, elles ont pratiquement 11 ans d'âge. Il y a quelques années, on était à 9 ans. Donc on voit que le parc ne cesse de vieillir parce que les gens gardent leur voiture, ils en sont contents et ils n'ont pas forcément besoin de changer. Le seul problème que ça pose potentiellement, c'est que ce sont des voitures qui sont un peu moins sûres. C'est-à-dire que les très vieux véhicules, un certain du parc à plus de 10 ans, elles sont pas
pas aussi bien équipées en termes de sécurité passive notamment, et puis aussi en termes de pollution, ce sont des voitures qui sont un peu plus polluantes, mais sinon pour le reste, ce sont des voitures qui correspondent parfaitement aux besoins des gens qui les conduisent tous les jours.
Qu'est-ce qui coûte le plus cher, Flavien Novi? Ce sont des réparations sur une vieille voiture ou sur une voiture électrique, par exemple?
Ah, aujourd'hui, on commence à voir un peu ce qui se passe sur les voitures électriques. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça coûte de l'argent d'entretenir une voiture électrique.
Ah bah oui, alors,
bien sûr. Il y a toute la partie habituelle qui ne change pas, c'est-à-dire tous les pneumatiques, la carrosserie, etc. Bon, ça c'est pareil, que ce soit une voiture électrique ou pas. Quoique sur les pneus, comme une voiture électrique est plus lourde, les pneus ont tendance à s'user un peu plus vite. Donc ça c'est un point. Et puis après, il y a toute la partie électronique. Et là, la partie électronique, ça coûte de l'argent. Et de toute façon, c'est aussi ce qui fait vivre tous les réseaux de concessionnaires, de réparateurs. Donc là, de ce point de vue-là, il ne faut pas s'attendre à avoir un effondrement des coûts d'entretien sur les véhicules récents qui sont très technologiques.
Merci beaucoup Flavien Novi d'avoir été notre invité sur ce débat et on termine avec des messages.
J'ai une révision en deux ans, hein. Une révision pour les liquides de frein en deux ans.
Bah, c'est, mais parce qu'elle est jeune ta voiture.
C'est ce que fait n'importe quel véhicule normalement.
Oui.
Bah oui.
Quand tu auras un pépin électrique et que ça te coûtera 15 000, tu verras. Voilà.
Et que ta voiture n'en vaudra plus que deux. C'est bizarre.
On termine avec ce message, Rémi.
Allez, ce message de Jean-Marie, qui nous écrit évidemment que la voiture est devenue un luxe. Vous avez le prix des voitures neuves. Vous avez vu le prix des voitures neuves.
Ah oui.
Même l'occasion devient de plus en plus chère. Les leasings, n'en parlons pas. C'est très cher. Il y a beaucoup de contraintes. Bref, oui, il faut aujourd'hui avoir beaucoup, beaucoup d'argent pour avoir un véhicule correct.
Et on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. La voiture est-elle devenue un luxe?
Bien sûr. Bien sûr, pour 91% de ceux qui sont prononcés. Ah oui, c'est sur nos réseaux sociaux.
Voilà. Allez, dans un instant, le zapping, le meilleur d'RMC. On parlera du Covid. Tu sais, il y a une nouvelle vague de vaccination qui arrive.
Oui, reprise.
Le Covid de retour.
Oui.
Épisode 12. On se demandera si le sport peut être une réponse face à la délinquance des jeunes. C'est un peu ce qu'a dit Emmanuel Macron ce matin face à Pauline de Malherbe. Et puis, est-ce que vous seriez prêt à prendre une douche à deux pour économiser de l'eau? C'est une directive qui a été donnée en Colombie. Voilà, on en parlera dans un instant dans Estelle Midi. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h32, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, avec aujourd'hui Rémi Barré, Thierry Moreau, Perico Collégas et Pierre Rondeau. Et tout de suite, c'est l'heure du zapping, le meilleur d'RMC. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Le meilleur d'RMC ces dernières 24 heures et on démarre avec un extrait d'Apolline Matin ce matin sur RMC. Craignez-vous encore d'être contaminé par le Covid? Aujourd'hui s'ouvre la nouvelle vague de vaccination contre le Covid. Celle-ci s'adresse particulièrement aux personnes les plus fragiles, mais elle est ouverte à toute personne souhaitant un rappel. Mais la crainte de la contamination s'estompe, comme l'ont constaté à Paris nos reporters d'RMC.
Chaque fois que ça a été ouvert, je me suis fait vacciner, j'ai eu tous les rappels. Dès qu'on aura un rendez-vous, on va le faire. On fait partie des victimes favorites, donc je préfère rester en bonne santé.
Maintenant qu'on connaît mieux le virus, ça va un peu mieux et il est moins dangereux.
Si j'apprends qu'il y a une reconnaissance importante, c'est évident que j'irai.
Perico, les gars, parce que vous êtes le plus âgé d'entre nous, est-ce que vous allez vous faire vacciner ou pas du tout?
Oui, sinon notre ami le docteur Robert Sebag va me gronder. Parce que il est très exigeant là-dessus. Je lui ai dit l'autre jour que je n'étais qu'à mes 3 vaccins de la période. Il a dit, vu que j'ai 65 ans, tu fais ton 4e et tout ira bien. Et pourtant, je sais qu'il y a certains médecins qui disent 4e dose, est-ce qu'il n'y aurait pas, non pas un risque de mortalité, mais ce qu'on appelle un risque de sidération de l'organisme. Il y a des rumeurs qui courent. Moi, je fais confiance dans la médecine. Et si Robert me dit qu'il faut que je fasse mon 4e vaccin, je ferai ma 4e dose d'ARN messager. Et voilà, j'étais chez Pfizer, je peux le dire, je vais rester chez Pfizer, qui sont des gens très honnêtes.
Très bien.
Il y a d'autres marques, d'autres maisons, mais je resterai fidèle à la maison de Pfizer. Voilà. Ils font le Viagra aussi, donc en général.
Bah écoutez, demandez 2 doses pour le prix d'une, on ne sait jamais. Thierry Moreau, vous aussi, vous allez vous faire vacciner ou vous avez l'impression que c'est un risque très très lointain?
Alors, la Haute Autorité de Santé préconise pour les gens de plus de 80 ans et les gens en EHPAD.
Mais Perico non plus ne fait pas partie de ces gens-là. EHPAD, hein.
Donc je vais peut-être passer au travers.
Ça va venir.
Non, mais il y a des gens flippés, vous voyez ce que je veux dire.
Au printemps pour la prévision des JO. On est toujours dans ce cadre-là. Ouais. Et puis pour les plus jeunes, s'il y a des comorbidités, moi j'ai un diabète, c'est peut-être une comorbidité, enfin c'est une comorbidité, donc peut-être je vais le faire, je sais pas encore, mais oui, pourquoi pas, il y a pas de problème. Le risque d'infection, enfin on regarde, quand on regarde les études des épidémiologistes, le risque de décès suite à un Covid a singulièrement baissé.
C'est pour ça.
Donc c'est moins prégnant, ça fait moins la vie de
l'actualité. C'est même l'effet pervers, j'imagine, c'est que les gens ont le sentiment que c'est moins à risque parce que effectivement grâce au vaccin, voilà, le taux de mortalité a chuté, mais parce qu'il a chuté, les gens s'imaginent que les vagues de Covid, les pandémies, les épidémies... On a appris à vivre avec et on a peu lu le sentiment que c'est une maladie mortelle. Donc on fait moins attention, très certainement, et peut-être que le taux de vaccination chute parce qu'il y a cette peur qui diminue.
Et en cas d'épidémie qui est dure, la Haute Autorité de Santé propose de prolonger jusqu'au 15 juillet cette nouvelle vague de vaccination au cas où l'épidémie reprend. Il faudra regarder ça de manière...
Et après, voilà, on débat, on discute aujourd'hui sur le plateau, mais moi, pareil, je me plie à ce que dit la Haute Autorité de la Santé. Voilà, j'ai pas les compétences pour avoir un quelconque avis en matière d'épidémiologie, en matière de vaccination. Si la Haute Autorité le dit, il faut l'accepter, il faut les écouter et il faut s'y plier. Si Robert Sebag, le conseil à Péricolégas, il faut aussi l'écouter, il faut s'y plier. On est quand même passé, on a tendance à l'oublier, mais on se rappelle, il y a 4 ans, c'était le confinement. C'était une période qui était pas des plus agréables au quotidien à vivre. On a plus envie que ça recommence. Donc voilà. Il faut suivre les indications des autorités en matière de santé publique et il faut aller se faire vacciner si on doit se faire vacciner.
Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui n'ont plus du tout envie d'aller se faire vacciner et qui se disent « Oh là là, je l'ai eu une fois, deux fois, trois fois, il ne s'est rien passé, donc pourquoi j'irais me faire vacciner ?» On a quand même l'impression que le risque, il s'est éloigné. Quoi. Et on a appris à vivre avec, effectivement. Le face-à-face RMC ce matin, le sport peut-il être une réponse face à la délinquance des jeunes ? Invité exceptionnel ce matin d'Apolline de Malherbe, le président de la République Emmanuel Macron estime que le sport est l'un des éléments qui peut aider les jeunes délinquants à se réinsérer dans la société. Écoutez.
Bon, j'ai pas de naïveté. Il y a aussi une réponse qui est régalienne, qui est sécuritaire, qui est judiciaire. Mais il y a tout un travail, si je puis dire, dans la manière d'être dans la vie. Et beaucoup des jeunes qui, à l'adolescence, posent des problèmes, ce sont des jeunes dont le cadre familial est explosé. Le sport fait partie des réponses. C'est pas la seule, mais fait partie des réponses. Pourquoi ? Parce que le sport, ça vous apprend à respecter des règles. Ça vous apprend à aller au vestiaire, à bien vous tenir, à rentrer sur le terrain, à avoir des partenaires, à vous dépasser vous-même, à respecter l'adversaire, à respecter un arbitre. Oui. Des tas de choses qui, dans la vie de tous les jours, sont fondamentales. Et donc, c'est pas la seule. Je suis pas naïf du tout. Mais je pense que ça aide beaucoup parce que ça éduque.
Alors c'est très joli tout ça, mais ce qui serait pas mal, c'est déjà de revaloriser le sport à l'école. Quand on voit que le sport n'est même pas une spécialité au bac, c'est-à-dire qu'on peut
c'est
pas prendre
ni
sport.
Une option,
je peux prendre
ni
la littérature anglaise au 19e siècle, mais je vais pas prendre le sport. Donc écoutez, c'est formidable. Pierre
c'est
Rondeau.
Ce grand débat qui est entre la France est-elle une nation sportive, une terre de sport? Est-ce que serons-nous Teddy Riner, Flore Manadou annoncer qu'on n'est pas une nation sportive parce qu'on n'aurions que 2 heures, 3 heures de sport à l'école? Oui, voilà, on va dans ce sens-là. C'est de très belles paroles présentées par le président Macron sur l'intérêt de pratiquer une activité physique et sportive à l'école, qui nous apprend le règlement, la loi, le vivre ensemble, la cohésion, l'esprit d'équipe. Tout ça est vrai, mais dans ces cas-là, faisons-le à l'école. Et si à l'école, on a une valorisation de l'activité physique et sportive, ne serait-ce que,
ce n'est pas le cas, hein.
Comme tu l'as dit, une option...
Ça a très peu de profs de sport qui sont profs principaux.
Déjà, avoir un intérêt accordé aux professeurs de PS, avoir un coefficient 2 au bac, le PS. 2. On est bon en histoire, on est bon en philo, on est bon en maths, on a 2 au sport, c'est pas grave, on aura quand même son bac. Donc si demain, on veut vraiment faire de la France une nation sportive et valoriser le sport pour tout ce que ça nous apporte, et le président Macron a raison, ça nous apporte beaucoup de choses, le sport et l'activité physique et sportive, dans ces cas-là, à l'école, dès l'école primaire, collège, lycée, coefficient 7 au bac, option sport,
exactement,
spécialité sport, valorisation du sport, professeur de PS valorisé, mis au même niveau qu'un professeur d'histoire ou de philosophie, et qu'on soit définitivement une nation sportive.
Péricolégas, est-ce qu'on doit revaloriser le sport aujourd'hui dans notre société?
C'est un président de la République qui a remis beaucoup de charrues. Or, nous manquons de bœufs. Alors, là, il a la charrue. Il a totalement raison. Mais avant ça, et bien entendu qu'il faut revaloriser l'éducation physique, c'est comme ça qu'on appelait ça quand j'étais jeune.
Quand aujourd'hui?
Voilà, mais alors, ça serait bien qu'on leur réapprenne déjà à apprendre à lire, à écrire, à compter. Ça... Voilà. Si. Non, non.
Non, mais alors, tout va de pair.
Non. Un esprit d'abord, sain, on fait etc. un niveau scolaire excellent, le meilleur possible, parce qu'on a dans les études PISA qui montrent l'effondrement du niveau scolaire. Mmh. Et lorsqu'ils seront alphabétisés, scolarisés, socialisés, on pourra évidemment leur ouvrir la porte du sport, voilà. Mais faire le sport dans des cerveaux vides ou des enfants qui ont été, non, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. C'est même dangereux.
Mais non, mais non, je vois pas ce que
parce
je
qu'il y a un ordre, mais il y a une priorité. On fait d'abord l'esprit, ensuite on fait le physique.
Non, mais bah non,
met d'abord des valeurs.
Ça va de pair.
Non, mais
non.
Ça va pas. Si. Non, mais ça va de pair. Ça, c'est vrai si l'autre était impeccable. Mais l'autre n'est pas impeccable. Donc, vous êtes d'accord pour mettre du sport sur des esprits qui sont...
Pourquoi l'histoire géo, pourquoi les maths seraient plus importantes que le sport, en fait? Pourquoi?
Elle, c'est pas plus importante, elle est aussi importante. Mais comme bah les autres sont, que l'homme sont au ras des pâquerettes, on va reliver, remonter le niveau de l'enseignement normal. Ensuite, on pourra professer.
Tu sais, il y a plein de gamins qui sont en échec, effectivement, en histoire, en français, en anglais, etc. Mais qui ne le sont pas en sport. Ils ne sont jamais valorisés. Alors que ces gamins-là, il faudrait les valoriser. Si tu mettais le sport au bac, c'est aussi des gamins qui pourraient réussir dans leur spécialité.
Mais nous sommes d'accord, c'est pas ce que je dis.
Et aujourd'hui, c'est les gamins qui sont en échec. Alors que le sport est une matière à part entière.
Il faut que les autres matières soient aussi en bonne santé, en bon état.
Ça va de pair. Il était démontré, on l'a vu d'ailleurs avec le Covid et la hausse de la sédentarité, que l'absence d'activité physique et sportive détériore tes capacités neurologiques et cérébrales.
D'accord, mais à la condition que l'école normale soit en bonne santé.
Pour que tu puisses acquérir ce savoir, comme tu le dis, de mathématiques, d'histoire géo, de littérature, de français, il faut que tu sortes aussi de la sédentarité.
Alors,
qui
d'abord,
aujourd'hui,
une bonne alimentation.
Mais voilà, alimentation, activité physique,
tout, ensemble, en
tout
en
va de pair.
Donc le sport tout seul, non.
Mais bien sûr que oui, c'est parce qu'on dit. On dit le sport à l'école. On dit le sport à l'école, donc c'est à l'école. C'est français, histoire, maths et sport.
Exactement.
C'est pour ça que ça va mal, c'est parce qu'on fait comme tu dis.
Thierry Moreau, alors je vous ai entendu souffler quand Pierre Rondeau a dit on a qu'à mettre le sport qu'au F7 au bac.
Mais j'aurais pas eu mon bac, comme ça c'est clair.
Ben non, vous auriez été obligé de faire du sport.
Très mauvais en sport, vous je déteste
mauvais
parce... ça.
Non, mais on ne peut pas être mauvais en sport, ça n'existe pas. Ça,
ah, j'étais
non, mais parce que vous
sport.
N'avez rien fait.
En saut,
t'as pas trop
de discipline. Très mauvais.
Ben oui.
Si, alors tir à l'arc, j'étais pas mauvais.
Et ben voilà.
Parce qu'il faut quand même tendre l'arc.
Et chacun a une discipline de
protection. Non, après, ce qui est important dans ce qu'il a dit, c'est quand même au départ le régalien. Voilà, la sécurité, etc. Après, on voit effectivement dans l'accomplissement des gens, il y a un certain nombre de choses, mais il y a aussi l'éducation, il y a aussi un certain nombre de choses. Le sport fait partie de ça.
Bien sûr.
Je pense que c'est indispensable. Et là, je ne savais pas, moi, qu'aujourd'hui, on ne peut plus le prendre en option au bac. Ça, c'est pas normal.
C'est
évidemment.
Pas une option. En fait, c'est aujourd'hui, c'est dans ce qu'on appelle le tronc commun.
C'est dans le tronc commun.
Mais
d'accord,
pardon.
C'est jamais dans les spécialités. Oui. Tu peux faire plein de spécialités,
bien.
Mais pas sport, par exemple.
C'est-à-dire qu'on peut pas avoir un discours comme ça de valorisation du sport dans les caméras et puis ensuite, concrètement, ne pas le faire dans l'éducation nationale.
Apolline Matin, ce matin sur RMC, seriez-vous prêt à prendre une douche à deux pour économiser de l'eau? C'est une idée qui peut vous paraître farfelue, mais à Bogota, en Colombie, c'est une consigne très sérieuse qui a été émise par les autorités. Les explications complètes avec Sébastien Krebs.
Donc se doucher à deux, mais pas non plus traîner sous l'eau. C'est très sérieux, parce que là-bas, la ville connaît une très grave sécheresse. Les autorités estiment que la capitale dispose de réserves pour 54 jours. Donc vous imaginez bien que chaque litre compte. Et puis les conseillers aux habitants de ne pas se doucher du tout les jours où ils n'ont pas besoin de sortir de chez eux.
Ah, on en est là quand même. Donc ne pas se doucher quand on n'a pas besoin de sortir, donc c'est vachement sympa. C'est-à-dire que toi, tu peux être dégoûtant si t'es tout seul, il n'y a pas de problème. Voilà. Ou se doucher à deux. C'est les bonnes mesures écolo ou pas du tout, Thierry Moreau?
Je trouve ça ridicule, mais je pense qu'il y a tellement d'autres choses à restreindre avant de restreindre les douches. Enfin, je sais pas, quand je vois les sociétés, les trucs de lavage de voiture, où je vois des gens qui vont toutes les semaines laver leur voiture parce qu'il y a le moindre petit truc.
Oui, mais c'est l'eau de récup.
Oui, enfin, ok, d'accord. Enfin, ça reste de l'eau qu'on peut traiter et utiliser pour se laver. Non, recycler, mettre une brique, par exemple, dans sa chasse d'eau pour qu'il y ait moins de. Le réservoir soit plus petit.
Ou le lavement au niveau
de la. Il y a plein de petites choses qui peuvent se faire avant de prendre sa douche à deux. Moi, franchement.
Ça peut être sympa.
Bah ouais. Oui. Non, mais là, on tombe dans autre chose. C'est Jackie et Michel, c'est une chose.
Mais on parle d'une situation qui est dramatique là.
Je suis d'accord.
Pour le coup. Oui, mais oui, mais qui va se. Regarde ce qui se passe aujourd'hui en Catalogne, en Espagne, où la situation de la sécheresse est dramatique. Ah, ce qui se passe en France, dans les Pyrénées-Orientales, où on est en vigilance rouge,
oui.
Et où il y aura des stress.
C'est pas
l'été dernier. L'été dernier, souvenons-nous qu'il y a des communes, il y a quelques communes en France où on a dû couper l'eau courante. Et ça va se.
Après, j'ai vu Pierre hocher de la tête en disant que ce n'était pas nécessaire quand on ne sortait pas de chez
tous
soi.
Tous les spécialistes le disent, oui. Ça va se multiplier. Aujourd'hui,
il y a une première mesure à prendre.
C'est peut-être pas la solution.
Il y a une première mesure à prendre.
Adéquate.
Vous aviez suggéré en février 2022, le 16 février, je me souviens, j'étais là. L'eau de la machine à laver, oui, de l'évier, qu'on appelle l'eau grise,
oui,
aux toilettes. Est-ce qu'on peut l'envoyer? Ça, déjà, ça serait une économie gigantesque.
Mais évidemment, quand les autres pays le font.
Alors pourquoi deux? À 3-4, vous en êtes fous, plus en riz.
C'est ça, avec les
enfants. Très bien, parce que Thierry Moreau, il est un petit peu, il est resté fripon. C'est pour ça, mais on pensait pas du tout à mal. Mais une douche, moi, j'étais à Budapest il y a 2 ans, il y avait les piscines communes, les bains communs.
On peut, mais les piscines, c'est souvent commun. Enfin, je veux dire, c'est assez rare d'avoir une piscine juste pour soi.
Non, je parle des bains, des termes.
Ah oui.
Des bains publics. Communes, bien sûr. Mais voilà, collectiviser l'eau à plein des, voilà. Vous avez, je vais pas rentrer dans les détails anatomiques, mais vous avez des gens qui, pour pipi, ne tirent pas la chasse parce qu'on peut faire pipi à plusieurs. J'ai découvert ça l'autre jour. Et
non, c'est pas ça, mais si vous êtes tout seul dans votre appart et vous allez faire pipi le soir, bah, vous tirez pas la chasse, vous allez faire pipi le lendemain, a priori, quoi. Donc, vous économisez, mais enfin. Oui, d'accord, mais c'est pas pareil que de pas prendre sa douche.
J'ai compris.
Pierre, en fait, tu prends pas ta douche. Moi, par exemple, si un jour je sors pas.
Il fait pas de vélo, donc.
Je
prends pas ta douche.
Je sors pas, je fais pas de sport, je sais que j'ai passé ma journée à rien faire.
Et tu prends pas ta douche?
Je me brosse les dents.
Et après, t'engueules ton tonton qui t'offre des poubelles.
Mais c'est quand même incroyable.
Non, mais attendez,
ça, c'est incroyable, ça.
Si on sort, ça dure une journée, hein, c'est pas un mois, hein, mais.
Non, mais même une journée.
Une journée, bah voilà, je me suis brossé.
C'est automatique, la douche le matin?
Pas à chaque fois, non, je suis désolé.
Je ne savais plus. Mais des gens qui étaient très propres dans leur vie, passé 70-75 ans. Alors,
c'est une belle anecdote.
Non, ils expliquent qu'ils ne transpirent plus, qu'ils
font des mouvements, voilà.
Pour la douche, c'est la douche quand même. C'est la civilisation.
Pas pour Pierre Rondeau.
Non, mais.
Allez.
Souvenez-vous l'époque où il y avait les gens qui avaient la cuvette avec le dos,
avec le gant.
On faisait la toilette.
La toilette,
heureusement, les choses ont bougé.
Oui. Non, mais c'est incroyable. On va revenir à
quand vous prenez le métro, quand vous prenez les transports en commun,
vous
savez que les Français ne se lavent pas tous les jours. C'est une réalité.
D'accord.
Parce que vous avez l'air de vous offusquer.
Non, je m'offusque pas parce que vous êtes très long là.
Une grande proportion de la population ne se douche pas tous les jours.
Très bien. Dans un instant, on aura, taisez-vous, on aura RMC s'engage avec vous, on prendra des nouvelles d'Yves. Yves, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un auditeur handicapé qui avait perdu une partie de ses droits et on a du nouveau dans ce dossier, on a des bonnes nouvelles. Et puis, à 14h, on parlera, on parlait de propreté, 85% de hausse des décharges à ciel ouvert en France ces 4 dernières années. Est-ce qu'on est de plus en plus sale? Écoutez, vous voyez, ça vous fait plaisir, Péricot. On aura à 14h, à tout de suite dans les
semaines. Je suis dépité.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi. Et tout de suite, c'est l'heure d'RMC s'engage avec vous, avec Solène Leroux.
Estelle Midi.
RMC s'engage avec vous.
Et aujourd'hui, Solène, on parle de handicap et surtout on prend des nouvelles d'Yves. Yves, dont l'histoire nous avait énormément émus.
Yves est un retraité de 68 ans. Il vit à Strasbourg dans un appartement modeste où on l'avait rencontré en janvier. Après un grave accident de travail il y a 20 ans, sa colonne vertébrale est très abîmée. En fait, il ne peut quasiment plus marcher et 14 opérations n'y ont rien changé. Depuis, Yves est invalide à 80%, un taux estimé par la maison départementale des personnes handicapées. On vous en parle ici souvent, c'est la MDPH. Il y a 3 ans, il renouvelle sa carte d'invalidité et la sentence tombe. Son taux passe à 79%, sans raison. Ça peut paraître anodin, c'est tout le contraire. Il perd en fait les 2/3 de ses aides. Il fait un recours refusé, là aussi sans qu'on lui explique en fait ce nouveau calcul. Ça, c'était évidemment avant qu'on intervienne. Il a pu déposer un nouveau dossier et tout est rentré dans l'ordre. Il vient de récupérer sa nouvelle carte.
Celle-là, elle est officielle. Elle m'a dit, vous êtes tranquille. Vous êtes à plus de 80%, monsieur. C'est incroyable de vivre ce que j'ai vécu. J'en pouvais plus.
Et c'est un immense soulagement pour Yves, évidemment. Donc, c'est bon pour lui. Il a de nouveau ses aides.
Eh bien, toutes et même plus, Estelle. Il a désormais une aide de 140 euros par mois contre 30 ces derniers temps. Des réductions pour les transports, l'assistance handicap dans les gares. Et surtout, cerise sur le Kouglof, parce que je vous le rappelle, il est alsacien. Voilà.
Très bon.
Merci. Cet avis, alors que jusque-là, en fait, il devait renouveler son dossier très régulièrement. Oui. Ça dépendait des années, mais ça pouvait être tous les ans, tous les 2 ans, etc. Là, il n'aura plus jamais à remplir dossier de toute sa vie. Yves en est persuadé. Sans nous, ça ne serait pas arrivé. Mais pas que. Il est tombé sur une personne très à l'écoute à la MDPH.
Ça les dérange quand vous intervenez. On a été reçus comme des rois. Dans un petit bureau, elle a rempli 3 pages, elle a dit « je vous comprends ».
Pour une fois, le côté humain a été entièrement respecté.
Ça, c'est chouette.
Exactement.
Et c'est grâce à nous.
Et oui, c'est grâce à nous. Et à Norbert, qu'on vient juste d'entendre, c'est l'ami Div, c'est lui en fait qui s'occupe de tous ces papiers d'invalidité.
En tout cas, on est très très heureux pour Yves, hein, très heureux après ces 3 ans de galère.
Hein. Ouais, après, en plus, là, cette décision, elle a été rendue en un temps record. Pour vous dire, le délai de traitement des dossiers en ce moment à la MDPH d'Alsace, c'est près de 4 mois. Pour Yves, suite à notre intervention, ça a pris seulement 1 mois et demi, donc une réactivité qu'il faut souligner. La MDPH juge bon, d'ailleurs, a raison de nous rappeler la nécessité de bien transmettre les documents utiles lors de la dépose de son dossier pour éviter les erreurs. On n'a en revanche toujours pas d'explication pourquoi, dans un premier temps, le taux d'invalidité d'Yves a été abaissé à 79%. Erreur d'appréciation pour faire des économies, on ne le saura peut-être jamais, mais en tout cas, c'est réglé. Génial. Ces problèmes de santé ne vont pas disparaître, mais Yves a désormais le cœur un peu plus léger, libéré surtout de cette absurdité administrative. Et nous, on est plus que ravis pour lui.
Bravo à Solène Leroux et bravo à toutes les équipes d'RMC s'engagent avec vous qui font un boulot absolument formidable. Et si vous aussi, vous voulez être aidé, eh bien, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail à l'adresse RMC avec vous,
à
rmc.fr. Mais comme le nom de la chronique a changé, vous savez,
exactement.
Des fois, RMC avec vous, @rmc.fr. Et Solène Leroux et toutes ses équipes feront le maximum pour vous aider. Dans un instant, on parlera des déchetteries sauvages qui se multiplient en France. Est-ce qu'on est de plus en plus sale? Et puis il y aura RMC Conso également avec Charlotte Méritant qui nous donnera des astuces à petit prix pour réparer votre voiture. A tout de suite sur RMC.